Vous avez rendez-vous avec le journal présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Nora, bonjour à toutes et à tous. La Russie aurait-elle infiltré le Parlement européen à 2 mois des élections? Le renseignement tchèque dénonce l'influence d'un réseau de propagande. Istanbul restera-t-elle aux mains de l'opposition municipale aux allures de présidentielle demain dans la première ville de Turquie? La santé du pape, source d'inquiétude après son absence hier sur le chemin de croix. Et puis comment embellir la France moche? Le gouvernement a dévoilé la liste de 74 projets sélectionnés pour transformer les zones commerciales. L'urbaniste Pascal Madry est l'invité de ce journal. Après le Qatargate, le Russiagate. Un peu plus de 2 mois des élections européennes, les scandales de corruption s'enchaînent au Parlement européen. D'après une enquête menée par les services de renseignement tchèques, Moscou aurait tenté de tisser un réseau d'influence à l'intérieur de l'institution. À Bruxelles, les précisions de Jean-Jacques Herry.
Tout part d'un site internet, Voice of Europe, la voix de l'Europe, un site basé en République tchèque et qui avait attiré l'attention des autorités. Appartenant à un proche de Vladimir Poutine, Voice of Europe était soupçonné par Prague d'être un relais de propagande russe sur l'Ukraine, soupçon confirmé après enquête des services de renseignement tchèques, selon qui le site ne serait qu'un maillon d'une chaîne d'influence qui s'étendrait jusqu'au Parlement européen. L'information a été confirmée cette semaine par le Premier ministre belge Alexander De Croo devant la Chambre des représentants belge. La Russie a approché des eurodéputés, mais aussi payé pour promouvoir la propagande russe. Il s'agit de parlementaires touchant de l'argent, a même précisé le chef du gouvernement. Aucun nom n'a filtré, mais tous les regards se tournent vers plusieurs eurodéputés d'extrême droite ayant accordé, par le passé, des interviews au site internet Voice of Europe. Dès hier, les responsables des groupes libéraux et verts au Parlement européen ont réclamé l'ouverture d'une enquête interne sur ce réseau d'influence. Le Parlement, lui, affirme de son côté examiner les conclusions des autorités tchèques.
Jean-Jacques Herry à Bruxelles pour France Culture. 5000 enfants évacués de Belgorod après les frappes de Kiev sur cette région russe frontalière de l'Ukraine. Ils ont été accompagnés vers Briansk et Saint-Pétersbourg. Au total, 9000 mineurs doivent être évacués dans les prochains jours. Sur le front de la guerre à Gaza, 5 Palestiniens sont morts ce matin dans une nouvelle bousculade lors d'une distribution alimentaire. Une quinzaine de camions étaient attendus sous la supervision d'un comité populaire de protection, lequel a tiré en l'air, provoquant la panique dans la foule rassemblée sur un rond-point. D'autres témoignages évoquent des tirs de chars israéliens positionné un peu plus loin. Dans le même temps, Benjamin Netanyahou se dit disposé à reprendre les négociations sur une trêve à Gaza. Elle devrait se tenir au Caire et à Doha dans les prochains jours. Et puis ce bilan revu à la hausse après des tirs israéliens sur la ville d'Alep hier dans le nord de la Syrie. 52 personnes ont été tuées, des soldats syriens et des combattants du Hezbollah libanais. J-1 avant les élections municipales en Turquie. Et cet enjeu de taille à Istanbul, le candidat du président Erdogan parviendra-t-il à reprendre la première ville aux mains de l'opposition? Le maire sortant reste très populaire, mais l'AKP a mené une campagne aux allures de revanche ces dernières semaines. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Correspondante de France Culture à Istanbul, quelle est l'ambiance à Istanbul à la veille du scrutin?
Eh bien écoutez, cette campagne s'est déroulée avec beaucoup moins d'effervescence que les précédentes. On parle de fatigue démocratique des Turcs. Il faut dire qu'ils en sont à leur 9e élection en 10 ans. Et surtout, les partisans des deux grandes formations, l'AKP du président Erdogan et le CHP, le parti républicain laïque, eh bien ces partisans sont un peu découragés pour des raisons différentes. Dans le camp du pouvoir, les classes populaires, soutien traditionnel du président, sont écrasées par la crise économique. Elles espéraient une embellie après la présidentielle. Il n'en a rien été, l'inflation galope, la livre perd du terrain et les retraites n'ont pas été augmentées. Nous en avons d'ailleurs parlé sur cette antenne. On a noté une affluence bien moindre dans les meetings du président et moins d'enthousiasme aussi. L'opposition dénonce même des assistances convoquées, les fonctionnaires sommés d'assister au rassemblement de l'AKP. Pour l'opposition, eh bien là, ses partisans, eux, ont été assommés par la défaite de l'an dernier à la présidentielle et aux législatives et ils sont consternés par le spectacle des divisions que cette opposition a offert ces derniers mois. Beaucoup restent encore indécis. Alors, cela ne veut pas dire que demain il y aura une forte abstention. Ce sera d'ailleurs intéressant de la mesurer. Vous savez, Traditionnellement, on vote beaucoup en Turquie, plus de 80 voire 90% de participation, bien que le vote ne soit pas obligatoire. C'est un peu un devoir très ancré dans la population, que l'on soit jeune ou pas. D'autant que, vous le disiez, les enjeux sont quand même élevés. C'est un enjeu national que revêt ce scrutin local. En résumé, on pourrait dire qu'une victoire du camp présidentiel parachèverait la mainmise d'Erdogan sur le pays, lui qui a déjà tous les pouvoirs, hein, sauf la direction des grandes villes. Mais si l'opposition conserve les villes qu'elle a remportées il y a 5 ans, et Istanbul bien sûr au premier chef, voire si elle conquiert de nouvelles villes, eh bien cette opposition pourra se prendre à rêver à la présidentielle de 2028.
Merci Marie-Pierre Véraud en direct d'Istanbul pour France Culture. Le pape est-il toujours en état de régner? François a annulé hier sa traditionnelle participation au chemin de croix quelques minutes seulement avant le début de la cérémonie. Simple mesure de précaution, indique le Vatican, pour préserver sa santé avant la veillée pascale de ce soir, la plus importante de l'année pour les catholiques, et bien sûr la messe de demain matin. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant à Rome pour France Culture. Alors ça n'est pas la première fois que la santé du pape lui fait défaut. Ces derniers jours, on l'a vu déléguer la lecture de ses discours, et tout ça fait une accumulation de détails qui nourrissent de fortes inquiétudes. En ce week-end de Pâques, Bruno, le pape semble fragile à tout point de vue.
Oui, sa fragilité physique d'abord est évidente. Il n'est plus en mesure d'assumer tous les engagements liés à sa fonction. Hier, François a présidé la messe du Vendredi Saint, mais ensuite, effectivement, il a renoncé au chemin de croix pour se préserver. À l'instant, sa présence ce soir à la veillée pascale est officiellement confirmée par le Vatican. C'était le cas aussi hier avant le chemin de croix jusqu'au dernier moment, donc prudence. La fragilité, c'est aussi celle des chrétiens de ce que l'on nomme Terre Sainte au Vatican. Jérusalem, Israël, les territoires palestiniens. Le pape qui rejette la guerre de toutes ses forces a écrit cette semaine aux fidèles de Gaza et Jérusalem « Vous n'êtes pas seuls ». C'est pourtant le sentiment qu'ils doivent avoir entre absence de pèlerins comme à Noël dernier et situation apocalyptique que l'on connaît à Gaza. Ils étaient un millier de chrétiens dans cette zone de Gaza le 7 octobre. La guerre aussi en Ukraine et la dernière déclaration du pape a fragilisé sa position. Lui qui a déclenché la fureur des Ukrainiens en appelant au courage de hisser le drapeau blanc. Cette semaine, son ministre des Affaires étrangères, Mgr Gallagher, a clarifié le propos. Nous devons tout faire pour éviter une défaite de l'Ukraine, dit Mgr Gallagher à la RAI. Enfin, la fragilité du pape est notable au sein de l'Église. Sa décision d'autoriser sous de strictes conditions les bénédictions de couples homosexuels a suscité un vent de fronde loin d'être retombé. À 87 ans, face à tous ces obstacles, François compte bien mener sa mission le plus longtemps possible. Il lui reste des forces, mais elles déclinent.
Merci Bruno Duvic. Et sur un tout autre volet, qui dit week-end de Pâques dit aussi chasse aux œufs, des cloches, des lapins, des poissons, tous ces symboles en chocolat qui emplissent les rayons des supermarchés depuis quelques semaines. Mais vous l'avez sûrement remarqué, le prix de tous ces produits a bien gonflé depuis l'année dernière, ces derniers mois. Le prix du cacao a doublé et les industriels sont bien obligés de répercuter cette augmentation, plus 10% en moyenne. À l'inverse, François Chagnon, on dirait que les artisans chocolatiers arrivent à tirer leur épingle du jeu.
Même avec sa petite retraite d'aide-soignante, Arlette fait le déplacement chez cet artisan d'une ville bourgeoise de l'ouest parisien. Elle repart avec 5 beaux poissons en chocolat noir pour ses petits-enfants.
Je préfère acheter plus cher parce que c'est de la qualité par rapport au commerce. Franchement, il n'y a pas photo. La vie est trop courte et il faut en profiter.
Alors oui, les chocolateries sont plus chères que les grandes surfaces, mais l'augmentation du prix du cacao touche davantage les industriels car c'est une part plus importante de leurs dépenses et ça joue en faveur du chocolatier Gilles Cresneau.
Le produit bas de gamme à quelques euros du kilo va donc forcément avoir un pourcentage d'augmentation très important. Nous, on va appliquer un pourcentage beaucoup plus faible. On a néanmoins la chance d'avoir un nombre de clients qui augmente constamment.
Et une augmentation constante de son chiffre d'affaires. Faire depuis 3 ans. Ça a convaincu cet autre artisan de transformer sa chocolaterie de quartier, sans prétention, en boutique atelier haut de gamme. Christian Vautier achète désormais son cacao directement auprès des producteurs au Venezuela et au Ghana.
Les circuits courts souffrent moins que les achats aux grands gros, pour lesquels il y a aussi un effet d'aubaine. Le fait qu'il n'y ait pas 5 sociétés différentes qui vont prendre une marge, ça maîtrise un peu plus les coûts.
Pour l'instant, car une nouvelle explosion du prix du cacao se profile pour les fêtes de fin d'année.
26 millions d'euros pour embellir ce que certains appellent la France moche. Le gouvernement a publié en fin de semaine la liste des 74 projets sélectionnés dans le cadre du plan de transformation des zones commerciales, ces grands espaces périphériques hérités des années 60 où s'agglutinent les enseignes en tôle grise, les parkings et les gigantesques panneaux publicitaires sur les bords de route. Il en existe plus de 1500 en France, étalés sur plus de 500 millions de mètres carrés. Alors comment les transformer, les rendre plus attractives, voire habitables? Pour en parler avec nous ce midi, Pascal Madry, directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que le gouvernement a lancé ce plan en septembre dernier? Est-ce que c'est juste pour embellir ce qu'on appelle de manière un petit peu abusive la France moche ou est-ce qu'il y a d'autres motifs?
C'est une France moche pour une minorité des Français, et en général d'ailleurs celles qui ne fréquentent pas ces zones, pour le public, pour les consommateurs qui vont dans ces zones très régulièrement. La France moche, c'est celle des centres-villes délaissés, aujourd'hui en difficulté. Donc l'esthétique, je pense, est un critère très relatif. La question principale est celle de l'économie de ces zones, mais aussi la question environnementale qui est posée par le tandem autocaddie, qui malheureusement n'est pas vertueux aujourd'hui.
74 lauréats, alors qu'on s'attendait plutôt à une vingtaine de projets. Est-ce que ça veut dire que ça suscite plus d'enthousiasme que prévu?
Il y a une vraie appropriation politique du sujet par les collectivités, par les villes. Et de fait, je crois que 112 villes se sont portées candidates à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc oui, on peut dire qu'il y a une montée en maturité, en tout cas des élus, sur cette question de requalification des entrées de ville.
En réalité, il y a une dizaine de projets qui vont concentrer la majeure partie de cette enveloppe. Comment est-ce qu'elle va être utilisée concrètement?
Donc 20 millions d'euros effectivement pour 11 sites pilotes avec des enveloppes variables entre 400 000 et 4 millions d'euros selon les sites. C'est une contribution très modeste. Hein. Le coût de revitalisation d'une entrée de ville s'élève à 100 millions d'euros en moyenne. Donc nous avons là non pas un plan Marshall mais d'abord un fonds d'amorçage qui est là pour marquer d'abord aussi la volonté de l'État d'investir dans ces zones, mais aussi pour encourager tous les acteurs, toutes les parties prenantes, publiques et privées, à venir dans ces opérations.
Et concrètement, ça va ressembler à quoi? En quoi ces projets vont modifier, transformer le paysage?
Alors quand on regarde les projets en détail, il s'agit bien souvent d'installer des équipements publics qui étaient totalement absents. Montigny-les-Cormeilles, par exemple, c'est une école qui va venir au cœur de la zone. Ailleurs, il s'agit de renaturer, c'est-à-dire de recréer des espaces naturels pour y développer de la biodiversité qui est bien absente sur l'asphalte. Mais aussi beaucoup de logements, puisqu'il est prévu quelques 25 000 logements nouveaux dans ces espaces.
Et est-ce que les gens ont envie d'habiter dans ce genre d'endroit? Comment est-ce qu'on va rendre ça attractif?
D'abord en arrêtant d'en parler comme de la France moche, parce que c'est pas forcément le critère le plus attractif, l'argument le plus attractif pour y faire venir de nouveaux habitants, surtout en reliant ces zones avec le reste de la ville. Et en fait, c'est là que réside sûrement la grande difficulté de ces projets de requalification. Il va falloir retisser toutes les infrastructures de transport, mais aussi les services de transport, notamment les transports en commun, pour que ces espaces, bien souvent conçus au milieu d'échangeurs autoroutiers, deviennent demain des quartiers normalisés.
Et vous avez parlé du volet écologique, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir jouer?
Alors, en termes techniques, on parle de trame verte et de trame bleue, donc c'est-à-dire d'avoir des petits cours d'eau qui traversent ces zones, mais aussi des espaces de nature, tout simplement de la végétation qui reviendrait à la place, là encore une fois, de l'asphalte.
Là, le gouvernement indique 26 millions, mais Auchan a aussi annoncé 1 milliard d'investissements la semaine dernière. Il y a ce partenariat aussi avec Carrefour. À côté de l'enveloppe du gouvernement, paraît un petit peu maigre, non?
Alors l'enveloppe du gouvernement, elle ne se limite pas à ces 26 millions parce que, prenant les pouvoirs publics au sens large, on a aussi les contributions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires avec quelques millions, voire milliards. La Banque des territoires investit également dans ces zones. Donc finalement, la contribution publique commence à être signifiante. Mais c'est vrai que l'essentiel de l'effort sera porté par les promoteurs et investisseurs et qui manifestement s'organise très bien.
Merci Pascal Madry d'avoir été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes urbaniste, directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Juste un mot du temps pour finir ce journal. Le temps aujourd'hui plutôt mitigé, un nuageux sur la majorité du territoire, orageux même dans le sud-ouest. Attention, 6 départements sont actuellement en vigilance orange en raison des orages et du risque d'inondation. Les températures à la mi-journée sont comprises entre 10 et 21 degrés. Il fait 11 degrés à Brest, 13 à Metz, 15 à Nantes, 17 à Montélimar et 21 les maximales. C'est du côté de Perpignan.